Je voudrais vous parler de quelque chose, parce qu'on est quand même dans des temps très spécifiques, il faut être honnête, où beaucoup de choses se passent et beaucoup de gens se posent tellement de questions, quoi, sur qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que la bombe atomique va nous tomber dessus? Qu'est-ce qui va se passer? Vous savez que c'est très facile d'envoyer une bombe atomique juste en Suisse, puis que toute la Suisse soit irradiée, sans que personne n'ait pu dire un mot. Pour la France, pareil. Pour tout pays. Et maintenant, on est arrivé à un point où les gens s'en moquent complètement de ce que ça peut avoir lieu ou pas lieu. Voilà. Donc, c'est vrai que pour le peuple de Dieu, on a une espérance. Mais quand même, quand je parle à beaucoup de gens, tout le monde a très peur quand même. Tout le monde s'inquiète. Alors, j'ai pris la parole de Dieu. J'ai dit, Seigneur, montre-moi. Vous savez que tout ça est écrit. Tout ça est écrit. Et que finalement, on n'a jamais fait attention. Mais au moment où ça arrive, on se dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu? Alors, j'aimerais parler de quelque chose, c'est de Jérusalem, qui est la clé de Dieu pour un monde nouveau. Et on sait que ce monde va disparaître, mais il y aura un monde nouveau. D'accord? On va lire beaucoup de textes. Alors, comme ça, celui qui fait la technique, il va avoir beaucoup de travail. C'est toi, non? C'est ça? C'est qui? C'est là-bas. Voilà, alors beaucoup. C'est dans le psaume 137, versets 5 et 6. Je vais essayer de ne pas être trop rapide. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne mets Jérusalem au-dessus de toute autre chose, de toute autre joie, pardon, c'est écrit. Et en Ésaïe, un autre texte, chapitre 62, verset 1, Ésaïe 62, verset 1, à cause de Sion, je ne me tairai pas. À cause de Jérusalem, je n'aurai de cesse que sa justice paraisse comme l'aurore et son salut comme un flambeau qui s'allume. Ah, il n'a pas eu le temps de le mettre. Ésaïe 62, 1, ça y est, non? C'est parti. En tout cas, voilà, super. Tout comme Babylone représente l'ordre nouveau d'un gouvernement mondial avec toutes les conséquences néfastes qui s'en suivent, Jérusalem, lui, Jérusalem, pardon, excusez-moi, je suis en train de sauter, a toujours représenté dans la Bible un monde meilleur à venir et le temps viendra où les nations forgeront, ça c'est Michée 4, 3, le temps viendra où les nations forgeront des serpes de leurs lances et l'on n'apprendra plus la guerre. On aspire à ça, n'est-ce pas? Ça, c'est des choses. Babylone représente l'ordre mondial. Depuis la Genèse, au chapitre du début, il est parlé que le peuple Satan voulait que l'unité des hommes pour pouvoir atteindre le ciel et devenir Dieu. Le monde aujourd'hui est en train de faire ça, vous avez remarqué. Donc, ça c'est cet ordre actuel, et c'est ce conflit entre ces choses et le monde du Seigneur Jérusalem, que je cite comme ça. Et on voit ce conflit qui existe, et tout ce qui est en train de se mettre en place, le peuple de Dieu ne s'en rend même pas compte. L'ordre mondial, gouvernement mondial, monnaie mondiale, religion mondiale, tout est en train de se mettre en place et nous, on va combattre un vaccin, un Covid, alors que pendant ce temps-là, on installe. Guerre de l'Ukraine, ça provoque aussi l'installation de l'ordre mondial. Vous savez que j'ai entendu, il n'y a pas longtemps, le FMI, formation, comment ça s'appelle? Pour un... j'ai oublié le nom. Voilà, c'est ça. Il vient de dire, parce que Poutine a dit, je ne donnerai plus de gaz, vous le paierez en roubles. Plus du tout en dollars. Alors, le FMI a dit, on va mettre une monnaie internationale. C'est-à-dire, on va installer une monnaie. Donc, ce qui était prévu est en train de se mettre. En fait, tout ce qui se passe est en train de faire venir ces choses. Ça, c'est important de vous dire ça. Alors, je pense qu'il y a ce conflit entre Jésus et puis l'homme. Dieu et l'homme. Et si Dieu a dissipé, a donné des langues différentes aux hommes, c'est pour qu'ils arrêtent de vouloir essayer d'être au-dessus de lui et de le combattre. Mais Satan, depuis ce début, il attaque pour pouvoir remettre l'ordre. Vous savez, on parle aussi de l'œcuménisme. Ça, c'est un grand mot, mais c'est aussi dans ce système-là pour faire une seule religion. Vous avez entendu le pape ce qu'il a dit, l'évêque de Rome, il a dit une chose, un 1er janvier, il a rassemblé les Arabes, les Juifs, les chrétiens, évangéliques, orthodoxes, puis il a dit, nous sommes un en Dieu. Puis là, bientôt, il va y avoir une grande réunion qui va rassembler pour installer l'ordre mondial de la religion. Une seule religion. Tout ça, c'est en train de se faire, et c'est pour ça que je voudrais que le peuple de Dieu se réveille, pour dire comment vont être nos prières. Est-ce qu'on va combattre des choses qui ne servent à rien, même si c'est là, même si ce n'est pas juste, ou est-ce qu'on va combattre le vrai combat ? Est-ce qu'on va combattre M. Poutine, ou est-ce qu'on va combattre ce qui est en train de se faire et que Satan est en train de mettre en place de plus en plus ? Et ça, c'était écrit, n'est-ce pas ? Tout ça, c'est écrit. Hein. Je ne fais que de répéter ce qui est écrit dans la Bible, hein. Tout simplement. Alors, oui, j'en reviens à Jérusalem. Et autant donc Babylone est un idéal humain, autant Jérusalem est un idéal divin, d'un monde parfait, exactement comme l'a annoncé le prophète Michée. Ils habiteront chacun sous sa vigne, et sous ses figuiers, il n'y aura personne pour les troubler. Et où le loup séjournera avec l'agneau, le lion avec le bœuf, ils mangeront de la paille, il ne se fera ni tort ni dommage, car la connaissance de l'Éternel remplira la terre comme les eaux recouvrent le fond de la mer. C'est fou. Ça, c'est en train d'arriver. Et il faut qu'au dernier moment, Dieu va revenir, Jésus, sur la terre. Vous savez, je suis allé à Jérusalem, puis on avait un guide juif, une femme. Et puis quand je suis allé là-bas, il y a beaucoup d'années en arrière, hein, c'est en 87, 88, donc voilà, je suis un vieux, il y a beaucoup qui n'étaient pas nés à ce moment-là. Mais voilà, là, vous verrez que je suis un papé, on dit papé chez nous. Hein. Chez vous, papé, c'est la purée de pommes de terre, mais nous c'est le papy, c'est le papé. Juste comme centre de pour rire, ça vous fait du bien de rire aussi. Hein. Et c'est pour ça que moi je me réjouis, tout à l'heure on a parlé de se réjouir, vous allez voir à la fin de ce que je vais dire, c'est exactement ce qui se passe. Donc, il est parlé de ça que, voilà, dans la fin des temps, on se retrouvera tous éclairés. Je disais, cette personne de guide juif, c'est ça, et m'a montré le mont, vous savez, où Jésus reviendra. Et elle dit, venez voir. Alors, elle ne croit pas que Jésus est déjà arrivé. Elle pense qu'il va arriver. Mais pour eux, c'est au même endroit qu'il va arriver. Donc, ça va être là. C'est pour ça que c'est rigolo que les Arabes ont fait la mosquée d'Omar à un endroit qui n'est pas justement l'endroit où c'était normalement le tabernacle. C'était juste l'endroit des parvis. Alors, ils se sont plantés. Donc, ils peuvent mettre leur mosquée, ça ne sert à rien. Mais là où il va revenir, et elle me montre au mont, et elle m'a montré qu'il était en train de se fendre déjà. Il dit, tu vois, regarde, eh bien, il va venir là et c'est déjà en train de se fendre. C'est-à-dire que les temps qui étaient annoncés sont déjà en train de se mettre en place. J'étais surpris. J'ai dit, mais c'est incroyable. Et je pense que, voilà, Jésus tient tout entre ses mains. Dieu a le contrôle de tout. Et pour moi, ça me rassure. Il est et il tient le monde. Même que le monde va mal, je parlais de Babylone, c'est cet ordre mondial, mais nous, on est en sécurité parce qu'il est là. Et Jérusalem détient donc un rôle central dans la Bible. C'est là que va se faire la rédemption du monde et la rédemption du Seigneur lui-même. Car sans lui, ainsi que l'a reconnu Heidegger, vous savez, c'est un Suisse philosophe, Suisse-Allemand, je pense, Heidegger, un nom comme ça, ça doit être ça. Voilà. Il est impossible à l'homme de retrouver le paradis perdu, un paradis de paix et de justice, il disait lui. Et c'est vrai. Et devant le siège des Nations Unies, je vais vous surprendre, quand vous êtes déjà là en Amérique, vous savez, se trouve le mur des Haïs, il faut aller le voir. Et il est écrit, de leur épée ils forgeront des stocks, de leur lance des serpes, une nation ne se lèvera pas l'épée contre une autre nation et on n'apprendra plus la guerre. C'est Ésaïe 2,4. Ça, c'est écrit. Mais cette citation qui est écrite là-bas, à New York, est inscrite au mauvais endroit. même les vaines élucubrations humaines de tout ce système humain, parce qu'ils pensent que c'est eux qui vont sauver le monde. Ils disent que ça va être là. Et c'est pour ça que l'ONU a été fait là, justement, parce qu'ils savent, ils pensent que c'est ça. Donc c'est là le centre aussi. Et c'est inscrit au mauvais endroit, parce que Esaïe n'a pas vu les nations se réunissant à New York, mais en préambule, une paix et une justice mondiale, le passage dit « Parole reçue en vision par Esaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem, il est dit. » Et eux, on dit « New York ». C'est fou, quoi. Vous vous rendez compte comment le conflit qu'il y a entre l'ordre mondial et puis Dieu. Et on voit ce conflit est toujours là. Et ce n'est donc pas New York, mais c'est Jérusalem. La cité choisie était Jérusalem. Pourquoi Dieu a toujours voulu ça? C'est incroyable. Tous nous nous retrouvons là-bas. C'est fou. Et tous les rois de la terre, on l'a chanté dans la chambre, vont fléchir le genou devant lui. Même tous ceux qui aujourd'hui sont en train de se rebeller contre Dieu, vont être obligés de fléchir le genou. Il n'y a pas de problème. C'est incroyable. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à prier pour la paix de Jérusalem. Moi, je vous encourage à prier pour la paix de Jérusalem. Et c'est en confessant notre entière dépendance sur Dieu que notre salut, nous verrons le monde sauvé. Pas autrement. Il est instructif de noter que la pièce la moins utilisée à l'ONU, vous savez qu'il y a une pièce, c'est la salle de prière de la et de la méditation. C'est toutes les religions qui vont prier là. Et c'est le seul endroit où il n'y a quasiment personne qui vient prier. Et c'est juste au pied de cette inscription. C'est fou, quoi. C'est incroyable. Donc, l'humanité se trouve devant un choix. Babylone ou Jérusalem? Qu'est-ce que tu vas choisir? Même l'Église aujourd'hui. Hein, vous savez que l'Église, elle a un choix à faire. Beaucoup aujourd'hui, tant pis je le dis, mais beaucoup aujourd'hui dans l'Église, on vit une Église humaniste. On fait par la force humaine, vous avez remarqué? On fait des projets purement humains qui, à cause du Covid, tout dernièrement, n'ont même pas eu lieu, quoi. Tout s'est écroulé. Donc, ce n'était pas de Dieu. Donc, c'était humain. Et beaucoup de choses, on voit ces choses. Donc, la religion humaine est en train de se mettre en place aussi. Et Dieu est en train de combattre aussi ça. C'est fou. C'est lui seul le centre. Mais on a tellement appris aux gens à ne pas regarder à lui, mais regarder aux hommes ou à mon Église. Non, mais c'est fou, quoi. Alors je crois que Dieu est en train de changer ça. C'est pour ça qu'on doit grandir et s'attacher qu'à lui seul. C'est pour ça qu'au Covid, il y a tellement eu de gens qui ont été ébranlés et qui ont quitté le Seigneur, parce qu'ils s'attachaient à des hommes, à une façon de vivre. On est formaté dans un système de fonctionnement que Dieu veut renverser. C'est lui seul le centre. On le chante, hein. On ne le vit pas trop. Hein. Enfin, en tout cas, on devrait le vivre plus. Donc, Dieu, la Babylone, la première symbolise de la confiance dans l'homme, place ses projets et ses efforts et ses missions, tout en l'homme. Babel, la seconde symbolise l'homme dépendant de Dieu, plaçant en lui sa confiance, c'est-à-dire Jérusalem. À qui tu veux faire confiance? C'est ça. Si tu fais confiance en Dieu, il sera là tous les jours pour te secourir. Tu ne manqueras jamais de rien. Le monde peut se perdre, lui, il va veiller sur toi. Vous savez qu'après la Première Guerre mondiale, l'homme s'est dit, nous devons nous unir. Déjà, la Première Guerre mondiale. Et c'est ainsi qu'a naquit la Société des Nations. Puis à la Deuxième Guerre mondiale, l'homme s'est dit, nous devons nous unir plus puissamment, il disait. Et c'est ainsi que l'Organisation des Nations Unies vit le jour. Peut-être, comme en ce moment, faudra-t-il un autre choc mondial, plus violent, pour passer de l'ONU à un gouvernement mondial à 10 têtes. C'est des hommes très riches qui tiennent le monde. Vous avez vu au moment du Covid, pas suffisamment d'argent pour les vaccins. Ils ont eu affaire à des ordres mondiaux, FMI et d'autres. Ils ont eu des prêts, les entreprises ont eu des sous tout de suite. Aujourd'hui, ça se passe encore. Parce qu'il y a tout un système. Et plus ça va, plus on va dépendre de ça. Donc, à qui je dois dépendre? C'est fou, hein? Et moi, je suis étonné d'entendre beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui travaillent avec le Seigneur, des entrepreneurs qui ont vraiment une relation avec Dieu, qui ne font pas ce système et qui réussissent. Et Dieu montre la différence. Il dit, avec lui, ils y arrivent. Et j'ai vu ça en France, mais j'ai entendu parler aussi en Suisse, comme quoi ceux qui dépendent de Dieu, Dieu pourvoit, ils n'ont pas obligé d'affilier à tout ce système. Et Dieu veut démontrer les deux côtés. Le seul problème que le monde est dit aujourd'hui, c'est unissons-nous ensemble. Ne faisons qu'un. Et c'est une mauvaise unité. C'est l'unité qui n'est pas faite sous Dieu. Hein. Donc ça ne peut pas tenir. Ainsi, je crois que cela ne pourra pas mener, ça va pouvoir mener qu'à un désastre. Ça va s'écrouler. C'est pour ça que Jésus revient. C'est pour ça qu'il faut prier pour cela. C'est important. Et pourtant, dans leur ignorance, je pense que les gens vont se rendre compte au bout d'un temps qu'il est trop tard et que tout ce qui a se passé, ils ne peuvent plus s'en sortir. C'est pour ça qu'il faut vite réagir en tant que chrétien. Vite ensemble, être à s'unir pour prier, mais pas s'unir autour d'un homme, mais autour de Dieu. C'est important. Nous n'avons pas besoin de lui, de ses commandements, ils disent. Nous pouvons nous passer de lui. C'est ce que dit l'ordre mondial. C'est ce que disent ceux qui dirigent les mondes. Nous n'avons pas besoin de Dieu. J'ai même entendu une fois, c'est dans les Corées, là-bas, il dit qu'il a fait un canon assez fort pour tuer Dieu là-haut. C'est la folie, quoi. Mais c'est pour démontrer l'état d'esprit. Et pourtant, pour ceux qui veulent le voir, il y a un Dieu à l'œuvre dans le monde. Même si le monde semble sans espoir aujourd'hui, Dieu tient tout entre ses mains. J'ai dit l'autre jour, mais je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais en 1991, j'ai eu une pensée et je voyais Dieu prendre le monde entre ses mains et le secouer. Et puis il disait, moi je veille sur mon peuple. Mais il a secoué le monde. Et aujourd'hui, je dis, il est secoué de tous les côtés. Mais il n'y a pas un endroit où il n'y a rien. C'est fou. Plus ça va, pire c'est en tout cas. Dieu est à l'œuvre. Il y a un Dieu qui travaille à rendre cette terre sa vocation initiale, être un paradis de bonté, de miséricorde. Ce pourquoi beaucoup de chrétiens prient depuis des années, des siècles. Des chrétiens prient pour ça, pour retrouver cette terre. Des gens de toute race, de toute nation, se mettent ensemble partout pour prier, pour pouvoir que le royaume de Dieu vienne s'établir sur la terre comme il l'est au ciel. On le connaît dans Notre Père, hein, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est fou, quoi. On récite des choses par cœur, mais ça a un impact, une puissance incroyable. Moi, je veux vous dire tout ça, c'est important. Et ces personnes n'ont pas eu honte d'invoquer le nom du Seigneur et de prier devant des millions d'autres. Ils prient que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ils prient. Un jour, ces gens verront une terre rendue à elle-même, une nouvelle terre, de nouveaux cieux. On régnera avec la justice et l'équité. Il n'y aura plus de problèmes, plus d'injustice. C'est formidable, hein. C'est pour ça que je me réjouissais tout à l'heure, moi. Et Dieu se jubile, hein, de joie. Je vais vous lire des textes après. Comment il est heureux de ce que son peuple est en train de revenir pour être là quand il va revenir et puis qu'on va se retrouver tous là-bas en direction pour pouvoir adorer le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est fou, quoi. Mais cette nouvelle terre aura précisément pour capitale, donc la ville de la plus méprisée à l'heure actuelle, Jérusalem. C'est la ville la plus méprisée dans le monde. La capitale d'Israël, la nation juive ressuscitée. Ils reviennent tous. Dieu avait toujours dit qu'il le ferait après des années de dispersion. Il rassemblerait son peuple, il a dit, des quatre coins de la terre, de toutes nations parmi lesquelles il l'avait dispersé pour les ramener à la terre promise. Beaucoup de Juifs encore sont en sécurité dans certains endroits, hein, mais ils vont repartir, comme chez nous en France, comme en Suisse, mais ils repartiront. Hein, parce que tout le système qui va se passer va les pousser à être obligés à repartir là-bas. Même pour la France. Moi, je me pose vraiment des questions dans les futures élections, parce que je me dis, qu'est-ce que Dieu va faire pour que son peuple retourne là-bas? C'est fou, hein? Alors oui, les choses vont très vite actuellement. Et Dieu chante, proclame à travers toute la Bible. Et il dit ça. Celui qui disperse Israël les rassemblera certainement comme un berger rassemble son troupeau. Et si grande est sa jubilation qu'il décrète par son prophète que l'histoire du rassemblement de son peuple doit être publiée parmi les nations, jusque dans les îles lointaines. Ça, c'est dans Jérémie, pour ceux qui veulent. Jérémie 31:10. Quand même, je ne veux pas que les lire, il faut que je vous les écrire. Je crois que c'est quand on lit qu'on arrive à comprendre. Moi, je suis comme ça. Il faut que j'écrive beaucoup pour pouvoir comprendre les choses. Ça va venir. Aïe, il a écrit. Nation, écoutez la parole de l'Éternel. Publiez-la dans toutes les terres lointaines, dites. Dans toutes les îles lointaines, celui qui disperse Israël rassemblera et il gardera comme le berger garde son troupeau. C'est beau, hein? Et Ésaïe aussi, au chapitre 52, versets 7 à 10. Ça, je ne l'ai pas noté, il faut l'écrire. Ésaïe 52, 7 à 10. C'est Ésaïe qui prophétise là, hein? Ésaïe 52, 7 à 10, il dit qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui, pardon, il a changé de truc, les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle, qui publie la paix, et celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut de celui qui dit à Sion, ton règne vienne, et la voix de tes sentinelles retentit. Elle élève la voix, elle pousse ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion, éclater ensemble de cris de joie. C'est qui ça? Vous avez vu? Ruine de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem, l'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Toutes les extrémités vont le voir. Moi je dis, heureux celui qui aujourd'hui le connaît déjà. Restez attachés à lui. Mais moi, je jubile. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations. Il est le grand roi des rois. Il n'y en a pas d'autre au-dessus de lui. Et je voudrais vous encourager, parce que même ces temps sont difficiles, je le reconnais, mais si on arrive à fixer nos yeux vers les montagnes, comme vous avez dit, belles montagnes, il dit, fixez les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Vous savez que la Suisse, elle n'est pas à l'abri. Hein. Vous êtes un pays, mais là, elle commence à prendre des positions. Alors je crois que là, ça va chauffer aussi pour eux, comme toutes les nations. Mais je pense que justement, il faut que quelque chose se passe pour qu'il y ait une réaction. Moi, je trouve qu'on est trop confortable. Il faut nous secouer un petit peu. Et c'est ça, Dieu secoue, hein. Il faut qu'on réagisse, je crois. C'est vrai, on est tellement habitués. Et ce passage est incroyable, il est joyeux. Pourquoi Dieu manifeste-t-il autant de joie face à quelque chose qui, apparemment, n'a qu'un intérêt mineur pour la plupart des chrétiens? Il se réjouit, et la plupart des chrétiens ne se réjouissent pas de ce qui se passe. Mais on baisse la tête. Oh Seigneur, on fait comme... Les lamentations, oh Seigneur, on va mourir, regarde ce qui nous arrive, on est pris, tu vois pas le Covid, tu vois pas la guerre en Ukraine, oh là là. Mais réjouis-toi, Jésus revient, mais c'est formidable, mais c'est quelque chose de glorieux, moi je crois. Et je crois que c'est resté cette idée d'Israël en dehors de toutes les doctrines. Vous avez vu, on a tellement évité dans beaucoup d'endroits. En tout cas, en France, on n'en parle jamais, quoi. C'est fou, quoi. Alors j'ai dit, c'est tellement important aujourd'hui. Je dis, il faut que le peuple se réveille. Est-ce que c'est parce que Dieu a vu que l'apôtre Paul a déclaré plus tard, au chapitre 11 de Romains, 11-15, Romains 11-15, c'est Paul qui parle, hein, là. Ça va venir. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera la réintégration sinon une vie d'entre les morts ? Il a été très clair. Vous ne l'avez jamais vu, ce verset ? C'est fou, hein ? C'est tellement clair. Des fois, quand on ouvre les yeux sur des réalités, Paul l'avait dit. Si ils avaient été mis, pourtant, à cette période-là, ce n'était pas encore comme ça. Et il a dit, sinon, c'est la vie d'entre les morts. Ils vont revenir à la vie. Et nous aussi. Est-ce que c'est que Dieu savait le jour où son peuple retournerait dans son pays, pour la troisième fois de son histoire, qui va produire un événement si glorieux que Dieu appellera les cieux de se réjouir et les croyants à se tenir prêts à consoler son peuple? Et vous devrez consoler son peuple. Prendre son peuple dans les bras, le consoler. Dieu nous demande, console mon peuple. Viens, viens à son secours. Ouah, tout ça, ça va être... Et Ésaïe 49, 13, c'est encore une proclamation de joie, j'aime beaucoup. Ésaïe 49, verset 13. Cieux, acclamez, terre, sois dans l'allégresse, montagne, éclate en acclamation, car l'Éternel console son peuple, il a compassion de ses malheureux. Tu te rends compte ? Il ordonne à la terre, aux montagnes de se réjouir. Mais c'est fou. Aujourd'hui, la terre soupire, les biches soupirent après les courants d'eau. Il y a vraiment comme une souffrance partout. Vous avez vu la terre qui s'ouvre ? Et Dieu dit, réjouis-toi, parce que maintenant, tout va revenir dans l'ordre. C'est fou, hein ? Moi, je trouve ça tellement merveilleux. Et Paul, quand il parle de tout ça, lui-même a écrit au 11e chapitre de l'Épître aux Romains, inégalé sur la restauration finale d'Israël, et il conclut par un hymne de louange extraordinaire. C'est fou. Relisez la Bible, mais il faut lire la parole de Dieu. Et dans Romains 11, 33, on va le lire, vous allez voir. Romains 11, verset 33. 33, ça ne veut pas dire qu'il faut dormir. Non, dites 33, non. Je ne suis pas docteur. Mais voilà, il dit, « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Il n'a pas fini, car il a oublié la suite. Il faut que je le lise sur ça ? Non, il va le mettre. Ça n'a pas voulu être écrit. Car qui a connu la pensée du Seigneur ? Qui a été son conseiller ? Alors voilà, c'est l'autre verset, mais c'est bien. C'est pour ça qu'il a arrêté. C'est bien. C'est moi qui est coupable. Alors, pourquoi toute cette joie, hein ? Moi, je crois que, de la part de Dieu, ceux qui ont saisi la vérité de la grâce, et on a parlé de la grâce tout à l'heure, et la faveur de Dieu renouvelée envers son peuple d'Israël, je crois que l'événement est d'une telle portée que tous ceux qui ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir vont se réjouir d'eux-mêmes à l'appel de Dieu. Ils vont se réjouir, mais Dieu les appelle aussi à conforter son peuple, tout comme ils le font. Montrer de la miséricorde envers son peuple. Prier pour que Dieu rétablisse Jérusalem. Et il ne nous demande pas seulement de nous réjouir, si nous ne comprenons pas toute l'étendue des conséquences de la restauration d'Israël, mais nous ne, si on n'arrive pas à comprendre ça, on ne pourra pas se réjouir ni prier sincèrement. Il faut qu'on ait la révélation de Dieu. Relisez la Bible. Il faut que votre esprit s'ouvre, vos yeux s'ouvrent, vos oreilles s'ouvrent. Et je crois que c'est important. Je ne suis pas un pro-Israël. Vous savez, il y a eu un moment, un excès avec l'histoire juive. Tout le monde voulait se faire juif. Ce n'est pas ça du tout. Mais il faut remettre les choses en ordre et remettre la vérité en place. Et je pense que là, ce qui arrive en ce moment, ça nous réveille par rapport à ce que Dieu a dit. Alors, moi, je ne suis pas du style à faire des telles grandes prophéties, il va se passer ça dans 2 jours, dans 3 jours, qu'importe, je ne veux même pas. Mais qu'est-ce que la Bible me dit ? Qu'est-ce qui va se produire ? Et c'est tellement facile. C'est pour ça, quand il parlait tout à l'heure, chacun peut entendre Dieu. Lis la parole, tu vas entendre Dieu. Il va te montrer dans les textes que tout est là et que tu vas être rassuré parce que ça va t'amener la paix. Tu veux dire, mais je n'ai plus rien à craindre. Même si mon corps disparaissait, moi, je sais que je serai avec lui pour l'éternité. Bon, ça vaut le coup, quoi. C'est vrai que nos corps, en vieillissant, c'est dur. Hein. Moi, je reconnais pour moi-même, c'est vachement dur quand même. Des fois, hein, on a les os qui craquent, on a les rhumatismes, on a les douleurs. Ah, dans ma région, c'est tellement humide. Mais oh, j'ai cette espérance de ce que Dieu va faire. Et je crois qu'on ne pourra pas se réjouir pleinement que lorsque nous aurons pris conscience de cette rédemption de notre planète en dépend. Il en résultera une nouvelle vie et que les nations et les animaux ne combattront plus ensemble. C'est fou. Tu te rends compte, tu vas être avec le loup et puis l'agneau, et tu vas caresser le loup, tu vas voir le lion qui va manger de l'herbe, mais plus de la viande. Waouh, 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 pour les végétariens, c'est super. Non, mais c'est une blague, là. Et il y a un autre texte que j'aime beaucoup, c'est dans Ésaïe, chapitre 30, verset 26. Ésaïe 30, 26. Et là, ça parle encore plus. Ésaïe 30, 26. Et ça, j'aime, parce que quand il est écrit ça, tu dis, même la lune et le soleil vont se réjouir. C'est fou, quoi. Regarde un peu. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, t'imagines ? Et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande que la lumière de 7 fois plus grande en tout cas, c'est ça, hein, c'est 7 jours, je croyais que c'était 7 fois plus grande, pourquoi ces jours ? Bon, bizarre, que la lumière des... Je ne sais pas pourquoi c'est écrit ça. En tout cas, que la lumière du soleil sera 7 fois plus grande. Et c'est encore un passage surprenant. Même la lune et le soleil vont jubiler. Moi, j'aime ce mot, jubiler. Ils vont jubiler à l'approche du réconfort du peuple juif. Et ce jour promet tellement d'être merveilleux, tant il est annoncé avec amour et joie céleste. Parce que Dieu déclare, Ésaïe 54, 8, Ésaïe 54, 8, qui, tu peux le mettre. Et je finis par ce verset, je ne ferai plus travailler après, promis. Il faut suivre avec un prophète. Hein. Ésaïe 54, 8, ça va, on est dans les temps ? Oh, déjà, il faut vite faire. Hein ? Ça va arriver ? Non ? Qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai tout fait sauter, quoi. Il faut que je le cherche moi-même, alors. Heureusement, j'ai mon électronique aussi, moi. 54-8. 52, c'est là. Hop. Il l'a ? Ah ben, c'est fait avant moi. Dans un instant de la colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton rédempteur éternel. Je crois que c'est quelque chose qu'il déclare. J'aurai compassion de toi. Autant je t'ai mis à l'écart, autant j'aurai compassion de toi. Moi, je dis l'amour de Dieu pour nous, pour son peuple, mais tellement plus grand que ce qu'on peut penser, il ne nous abandonnera jamais. Jamais, jamais, jamais. Moi, j'ai une entière confiance. Je suis convaincu. Et des fois, c'est un peu des combats avec ma femme. C'est bien que ce n'est pas enregistré, ça aurait des problèmes. Mais des combats avec ma femme, parce que moi, je me réjouis. Elle dit, mais tu te rends compte ? Tu ne vois pas tout ce qui se passe ? Mais c'est extraordinaire, je dis. C'est formidable, c'est vrai. Je suis un peu moins terre à terre, peut-être, je ne sais pas comment on peut dire. Mais en tout cas, je suis tellement convaincu que Dieu tient tout entre ses mains. Pour moi, Alors, ça ne retire pas tout ce qui se passe. Hein. Je ne suis pas non plus un peu... Je vois clair aussi. Hein. Mais n'empêche que je voudrais que le peuple de Dieu, maintenant, ne regarde plus avec là, tout bas, mais qu'il regarde tout haut pour voir qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Cette relation verticale, on dit, c'est ça, avec lui. Moi, je crois qu'il faut que le peuple de Dieu revienne à lui. Alors, je ne dis pas que vous avez quitté Jésus, mais cette intimité avec lui, cette relation, travailler avec lui, marcher avec lui, regarder à lui, s'attendre à lui. Notre Seigneur est en train de revenir. C'est fou. Et son peuple va revenir. Vous allez vous réjouir dans quelques temps, hein, quand vous allez avoir tout. Mais il y a des charters entiers qui repartent là maintenant, encore de nouveau, pour Israël. C'est fou. Et je dis, mais Seigneur, c'est incroyable. Incroyable ce qui se passe. Tout ce que tu as écrit, que tu as promis, que les prophètes ont dit, s'accomplit maintenant. C'est pour ça que je dis, il y a des prophéties qui datent d'il y a tellement longtemps, puis qui sont en train de se mettre en place. Moi, je dis, c'est pour ça que je suis convaincu qu'il y aura de plus en plus de monde qui vont venir à Jésus. Parce qu'ils vont être convaincus de péché et ils vont venir. Il faut vous attendre et consoler tous ces gens qui sont dans la détresse, dans la souffrance. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez attendre que c'est le pasteur ou les anciens ou le conseil qui va s'occuper d'eux? Non, il a dit tout à l'heure, c'est vous qui avez reçu. Ce que tu as eu, donne-le, transmets-le, cette joie de ce salut. Il faut que tu le transmettes aux autres. Je ne sais pas quoi faire, j'ai envie de bondir, je rajeunis comme l'aigle d'un seul coup. Là. Voilà, je vais voler. Oh, mais fou, bon après je serai obligé de m'asseoir, mais ça ne fait rien. Voilà. Oh, mais Seigneur, tu es bon avec moi. Et merci pour ce que tu fais pour le peuple ici. Et je te prie vraiment pour qu'ils arrivent à avoir leurs yeux qui s'ouvrent dans ta parole, qui est cette révélation par ton esprit, qui voit les textes qu'ils avaient lus et qu'ils n'avaient jamais fait attention, les cités, mais qu'aujourd'hui, ça va devenir pour eux une réalité. Je prie pour ça, parce que moi, je crois que c'est important. Et c'est pour notre salut aussi à nous tous. Pour que ça accomplisse ta volonté parfaite. Merci Seigneur. Je vais donner quelques paroles aussi. Hein. Alors voilà, il faut que je respecte. Alors quand c'est le temps, tu me dis, hein, parce que moi, vous avez vu, je ne fais pas attention à l'heure. J'ai une montre, je ne la vois pas parce qu'il y a la manche. C'est là-bas un peu loin. Je fais semblant de ne pas le voir. Et puis, c'est terrible. Bon, merci Seigneur. Alors je vais